Alors ce soir, ce n'est pas avec nos contemporains que nous allons passer la soirée, mais avec Vivant Denon, à travers votre voix, Point de lendemain. Si vous avez lu Vivant Denon, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un auteur comme un autre pour vous, puisque vous lui avez consacré un livre, Le Cavalier du Louvre, Vivant Denon, 1747-1825, qui a été publié pour la première fois chez Plon en 1995, et qui aujourd'hui reparaît en folio chez Gallimard. Et c'est pas un hasard non plus si cette lecture a été faite au Louvre, puisque Vivant Denon est le fondateur du musée du Louvre actuel.
C'est très étrange parce que avant que je fasse ce livre, tout le monde avait l'inscription au pavillon Denon, là, au Louvre, avant la pyramide, et puis elle est toujours là. Et puis personne vraiment ne connaissait ce type, c'est assez curieux. Le fait d'avoir été bien des choses, à la fois, parallèlement, n'est plus compris à partir du 19e siècle, et encore moins au 20e siècle, et je dirais encore moins aujourd'hui. Il faut avoir une identité précise, être assigné à une place précise, avoir une étiquette, un badge, etc. Alors avec Denon, on est aux antipodes de ce genre de classement et de rétrécissement de l'identité. Avoir été successivement agent secret du bureau de Louis XV, compagnon de Diderot en Russie, avoir rencontré Voltaire, avoir écrit ce petit joyau qui est Point de lendemain, et puis ne pas avoir continué, parce qu'il est évident que c'est un chef-d'œuvre, alors faites-nous des chefs-d'œuvre, mais non. Le fait d'avoir été par la suite à Naples, toujours dans les coulisses diplomatiques, d'avoir assisté aux premières fouilles, d'avoir constitué une collection d'art qui se trouve aujourd'hui à Sèvres, d'avoir été le premier à voir ce qui sortait de terre comme chose grecque, ensuite d'avoir été à Venise, toujours sous couverture, donnant des leçons de dessin, parce qu'il est aussi dessinateur, il est graveur, et puis il est expulsé parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas assez défavorable à la Révolution française. Le fait de s'être retrouvé à Paris en pleine terreur en 1793, mais comme il était l'ami de David qui siégeait au comité de salut public aux Tuileries, le fait qu'il était sur la liste des émigrés ne lui a pas valu de perdre la tête, ce qui se faisait assez couramment à l'époque. Donc vous avez un récit magnifique de Denon, aventurier, en face de Robespierre, à 2h du matin, aux Tuileries. C'est pratiquement le seul portrait qu'on ait de l'habillement de Robespierre et de la façon qu'il avait de s'exprimer. Mmh. Et puis, ça continue comme ça, on rencontre Bonaparte dans une soirée, on va avec lui, c'est très mystérieux, on part avec lui en Égypte, on est le premier à écrire le best-seller de l'époque, qui est le récit de sa découverte de l'Égypte. Les savants publient après. Et puis, on se retrouve avec ce Bonaparte devenu Napoléon, qui assez intelligemment voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de goût et qui lui confie en effet la réorganisation des musées royaux. Et donc, c'est le fondateur du Louvre, dont le président aujourd'hui n'est autre que Pierre Rosenberg, c'est-à-dire le successeur de Vivant Denon. Excellent directeur, excellent président, enfin, avec une vie peut-être moins mouvementée. Donc c'est simplement intéressant de voir quelle était la vie des personnes qui ont vécu entre 1720 et 1820, en gros, c'est-à-dire une vie d'aventure où l'on était, comme vous vous rappelez sans doute, général à 25 ans.
C'est plus romanesque comme vie que tous les romans qu'on peut imaginer.
Je trouve, moi personnellement, ça m'intéresse assez les vies romanesques. Et puis je dirais même souvent, enfin on peut écrire des chefs-d'œuvre en restant chez soi, voire Proust, mais enfin quel roman aussi que ses nuits, quel roman aussi que ses aventures privées. Enfin, bon. Mais on peut aussi avoir des expériences multiples de voyages, etc. On devrait quand même exiger d'un écrivain qu'il ait une vie intéressante.
Et vous dites que c'est un personnage de roman en train d'écrire directement dans la réalité son roman.
Mais oui, il y a des époques qui permettent cela. C'est ce qu'on appelle des époques révolutionnaires où le temps est en train de changer, où les anciens masques tombent, les places volent, la géographie elle-même éclate, etc. Et en somme, peut-être qu'il y aurait s'il y avait un système nerveux pour vraiment voir l'histoire de notre temps depuis une trentaine d'années et vers quoi nous allons, il y a de quoi faire.
Autre élément qui n'a pas dû tomber dans l'oreille d'un sourd, Philippe Solers, vivant de Nantes, c'est quelqu'un qui a eu ce qu'on peut appeler une passion fixe.
Oui, on en découvre tous les jours. C'est-à-dire, il y a évidemment cette Théotoque Isabelle à Venise, qui est une femme extrêmement importante, puisqu'elle a eu un salon, comme on faisait à l'époque, mais un salon libéral, c'est-à-dire qui est développé, qui était suspect d'être favorable, en effet, aux idées des Lumières, et puis au-delà de la Révolution. C'est une femme très remarquable, dont il nous reste un portrait par Madame Vigée-Lebrun, très belle femme, très, beaucoup d'esprit. Quand Chateaubriand va à Venise un peu plus tard, il veut tout de suite aller voir cette femme-là, parce que c'est là que ça se passait. Ouais. Et après avoir publié mon livre, j'ai eu la grande surprise de voir qu'on avait découvert, peut-être à cause de ce coup de lumière sur Denon, des lettres qui étaient là, dans une bibliothèque de province en Italie, qu'on a édité depuis, et qui prouvent à quel point c'était en effet une passion réglée, très sage en même temps. Quand il lui dit, écoutez, vous avez fait ce que vous deviez, vous avez fait un fils, moi j'ai fait un livre, voilà, nous avons fait ce que nous devions, etc. Parce qu'ils sont séparés, il vit à Paris, il a beaucoup de travail. Cela dit, dans la vie de Denon, il y a beaucoup de choses mystérieuses. Parce que nous n'avons, à part ces documents-là, qui sont italiens, nous n'avons pas de documents français. Et ce qui me laisse penser, moi, qu'ils ont été détruits. Et qu'on ne va pas comme ça, en Égypte, embarquer à son âge, parce qu'il est vieux, hein, c'est une armée jeune, déjà il est vieux, embarqué par Bonaparte sans avoir en effet quelque chose qui ressemble à une amitié très particulière pour Joséphine à l'époque. On peut remonter un peu plus haut et dire que peut-être, après tout, Marie-Antoinette, enfin vous voyez, c'est-à-dire Point de lendemain est quand même le livre qui vous met en face d'une activité anonyme, Madame de T, n'est-ce pas, qui est la grande héroïne de cette petite fable, qui d'ailleurs est très étonnante, parce qu'il s'agit d'une action féminine d'enlèvement et d'initiation pendant ce que j'ai appelé une leçon de nuit. Point de lendemain, titre merveilleux. Probablement une vie très, 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 très aventureuse, en même temps très sage, comme l'étaient les hommes des Lumières de cette époque. Et je pense qu'il a dû, en effet, fréquenter des gens, des personnes très influentes, y compris en Russie. On lui a reproché beaucoup ça. Vous savez, il prenait ses renseignements, il était agent secret, il prenait ses renseignements souvent dans les boudoirs, la philosophie dans le boudoir, n'est-ce pas, c'est ça. Voilà.
Mais Vivant Denon, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus sous l'empire de l'art, comme vous le dites, que sous l'empire des sens.
Les deux.
L'un n'empêche pas l'autre.
Je dirais même que c'est mieux comme ça, puisque la question centrale est celle du goût. C'est évidemment quelqu'un qui a un goût extrêmement sûr, qui a fait un peu le courtisan avec Napoléon, parce que Napoléon voulait des scènes de bataille, alors on donnait de l'argent aux peintres de l'époque pour faire Napoléon à cheval passant les Alpes. Mais en réalité, quand on regarde sa collection, qu'il a constituée lui-même, dans son appartement qu'est Voltaire, où il avait qu'à traverser le pont pour aller chez lui, en quelque sorte, au Louvre, on n'imagine pas ce que c'était que le Louvre. Il travaillait à deux ou à trois devant une razzia d'œuvres d'art faites par les armées françaises dans toute l'Europe. Denon était sur le champ de bataille, suivait Napoléon, boum boum, voilà, il visait déjà des choses. Et alors là, il y a des innovations considérables pour son temps, c'est-à-dire la peinture italienne de haute époque, qu'il est le premier à voir, le premier vraiment. Et alors cette anecdote très fameuse, il se balade dans la rue, et vous savez, c'était l'ancien régime, c'était quelque chose qui la lumière avait dissipé les ténèbres, du passé faisant table rase, ça s'est beaucoup dit par la suite, alors il n'y a plus rien, voilà, tout à coup, tout ce qui était avant ne vaut plus rien. Et là, il tombe sur un tableau qui vaut rien, et c'est le Gilles de Watteau. C'est le gîte de bateau qui est aujourd'hui au Louvre et qu'il a acheté pour pratiquement rien, avec un David d'ailleurs réticent, disant mais tout ça c'est la vieille peinture. Et donc il est mort en face de ce tableau dans un appartement. C'est un tableau absolument magnifique, dont il est extraordinaire, qu'à un moment, vous voyez comme tout est fragile, il était sur le trottoir.